Voilà, merci d'être présent aujourd'hui pour rencontrer Anne-Marie Mitterrand suite à l'apparition chez Albin Michel de son nouveau roman « Attends-moi, j'arrive ». Anne-Marie Mitterrand, bonjour.
Bonjour.
Alors c'est un titre bien symbolique que vous nous proposez pour votre nouvelle histoire, parce que finalement, que ça soit dans la vie ou dans un roman, à un moment donné de notre existence, on attend tous quelque chose, une autre vie, et cela dépend souvent des rencontres que l'on fait ou que l'on ne fait pas.
Oui, c'est vrai que la vie, elle se fabrique à partir de rencontres. Et en fait, l'histoire de mes trois vénézuéliennes, qui viennent donc de Caracas, elle rencontre un fils de pasteur qui a fui un peu la France pour aller trouver l'exotisme et qui tombe raide amoureux de Dolores, qui est danseuse à Caracas. Et d'après cette rencontre, ça va changer et la vie du fils du pasteur et la vie de nos trois, de Dolores et de ses deux sœurs, qui vont pouvoir partir des barrios où elles crèvent la misère pour arriver en France.
Alors justement, vous l'avez dit, c'est donc la rencontre de cette danseuse Caracas ainsi que ses deux sœurs, de ce fils de pasteur. Tout les sépare finalement, leur nationalité, leur passé, leur religion surtout, leur évolution. Mais finalement, ils ont deux choses en commun, Dolores et votre Jacques, qui est le fils du pasteur. C'est ce besoin finalement de s'enfuir pour devenir ce qu'ils sont. Lui, Jacques, c'est fuir sa famille qui est protestante pour qu'il devienne un homme, et finalement, votre Dolores, elle veut pas être une bonne, elle veut pas être une pute, elle veut devenir une dame, et elle a aussi besoin de s'en aller.
Voilà, elle veut pas devenir une poule, non, mais elle l'est quand même.
Hein. On pourra dire courtisane.
Courtisane, voilà, c'est quand même plus joli. Mais elle l'est quand même, et c'est par l'homme qu'elle va s'en sortir. Elle sait que c'est par l'homme qu'elle va s'en sortir. Donc elle part en 38, ils partent toutes les trois, il l'épouse à Caracas, lui croyant qu'il va faire sa vie avec une jolie vénézuélienne et rester là-bas, et puis elle lui dit mais on rentre en France là, on s'en va, on rentre, lui il n'a aucune envie de rentrer, mais bon, et ils repartent en France, elles arrivent au Havre, dans la communauté protestante, et là, il faut avoir
là, c'est le scandale, parce que finalement, une catholique, ça fait tâche, trois d'un coup, là, c'est la catastrophe.
Trois catholiques chez les protestants, là, ils pouvaient pas le supporter. Ça, c'était absolument invivable. Et surtout, elle se disait, on est dans un trou, on n'arrivera jamais à avoir les moyens qu'on mérite. Ce qu'elle voulait, c'est quand même se caser et avoir un toit sur la tête, mais aussi le pouvoir et l'ambition. Enfin, elle voulait tout.
Résultat des courses, eh bien, ils vont quitter cette ville portuaire du Havre pour arriver à Paris. Alors, c'est vrai, Paris fait toujours rêver, mais vous nous proposez un Paris, je dirais, osé, puisqu'on est en juin 1940, mais vous nous proposez néanmoins un Paris en fait d'insouciance.
Alors elles arrivent à Paris le jour de... Elles arrivent à Paris en juin 40. Et elles arrivent quand Paris est occupé, quoi. Et là, elles se disent, de toute façon, faut s'en sortir. Elles ont pas de... C'est pas leur patrie. Alors, bon, on peut peut-être comprendre. C'est pas leur patrie. Pétain, De Gaulle, elles en ont rien à fiche. D'abord, elles ne connaissent pas. Ce qu'elles veulent, c'est s'en sortir. Et en fait, elles vont connaître la France par les Allemands, par les officiers allemands, qui les sortent, qui les emmènent chez Maxim's, qui les emmènent au Fouquet's, dans tous ces endroits où il était possible de faire des rencontres avec les Français, et les Français qui dînaient avec les Allemands.
Finalement, seule la volonté compte, c'est un peu leur cri de guerre à ces trois femmes qui sont prêtes à tout finalement pour se faire une situation, pour devenir des dames. Donc Paris sera leur Eldorado salvateur. Est-ce que pour vous, Anne-Marie Mitterrand, Bruxelles, est-ce votre Paris salvateur? Parce que je crois que vous vivez à Bruxelles.
Oui, mais je ne suis pas dans les mêmes conditions que l'étaient ces pauvres vénézuéliennes qui sortaient de la banlieue. Mais c'est vrai que moi, j'ai trouvé un certain bonheur, même beaucoup de bonheur à vivre en Belgique, puisque j'ai pris ma nationalité belge et que je l'ai fait uniquement par sentiment. Donc, mais ça n'est pas, je ne peux pas avoir la mentalité de ces trois vénézuéliennes qui étaient très proches de moi en fait, et que je connaissais bien, mais je ne peux pas avoir leur mentalité. C'était ma mère et mes tantes, hein, mais je peux pas avoir leur mentalité. C'est une autre vision du monde. Elle n'était pas née. Elle était née dans la misère.
Alors, des personnages proches de vous venez de le dire. Ce n'est donc pas une fiction, un roman. Le Paris, en fait, a bien existé pendant la guerre.
J'ai arrangé un peu les choses. J'ai arrangé, c'est-à-dire que j'ai romancé. Mais malgré tout, j'ai baigné dans cette atmosphère où ma mère, ses deux sœurs, ne vivaient qu'à travers leur pays, parlaient beaucoup de ce pays, parlaient toujours de... Et j'ai vécu tiraillée entre mon père, qui était vraiment dans la bourgeoisie française stable et solide, et mes deux tantes, qui étaient vraiment dures à porter, hein, parce qu'elles étaient... Elles étaient pas faciles, et jusqu'au bout, elles étaient pas faciles. Elles étaient des Vénézuéliennes avec des qualités et des défauts qui tranchent en France. Mais d'un autre côté, elles étaient géniales en même temps, parce qu'elles s'en sortaient toujours. Elles ont quand même épousé des gens absolument, elles sortaient de rien. Et on leur disait, vous êtes, quelquefois, moi je me souviens, on leur disait, des gens les connaissaient, vous venez du ruisseau. Si vous croyez qu'elles étaient susceptibles, rien du tout, de ruisseau, rien du tout. Elles étaient devenues des femmes riches et honorées en France. Donc, elles avaient une mentalité très spéciale. Hein. C'était quelque chose.
S'en sortir toujours. Alors, justement, l'intérêt d'une enfance pénible ou d'un passé pénible, c'est d'en tirer un bon parti.
Mais ça, c'est, elles avaient une volonté, une ténacité absolument énorme. Déjà, de toute façon, elles avaient fait leurs preuves, mais elles ont continué toute leur vie. Hein. Elles se sont battues jusqu'au bout pour, surtout pour l'argent. D'ailleurs, ce qu'elles voulaient, c'était de l'argent. C'était surtout ça qui les intéressait. Connaître des gens qui avaient du pouvoir, de l'argent, rencontrer des, voilà. Et c'était surtout ça qui les intéressait. Mais c'est vrai que la guerre, elles l'ont passée gaiement. Dans une situation assez facile, en connaissant les officiers de la Wehrmacht, mais sans jamais faire de mal. Elles n'ont fait de mal à personne, finalement. Elles ont juste été indifférentes au malheur des autres. Ça, la résistance, ils savaient pas que ça existait, mais elles n'avaient pas l'impression de collaborer, hein. Elles n'avaient pas l'impression, et pourtant, il y en avait une des trois qui était amoureuse et qui a fait un enfant avec un Allemand. Donc, voilà, c'était comme ça. Ça n'avait pas l'impression de collaborer avec l'ennemi.
Alors, chez vos trois sœurs, dans votre roman, eh bien, on vit intensément, on s'adore, on se trahit, on se rabiboche. Tout est tumultueux, finalement. C'est un peu un salon littéraire comme au XVIIIe siècle, mais finalement, on y parle peu littérature.
On n'y parle pas du tout littérature. Enfin, c'était les seuls qui, pendant l'occupation, recevaient comme des malades, dansaient sur les tables, repartaient au Scheherazade après redanser la nuit, et se fichaient éperdument d'avoir tous les voisins qui étaient, il y en avait certains quand même qui étaient choqués. Et qui après, alors on voit après la libération, les gens ont été très très peu inquiétés. Il y a eu, on a un peu puni l'une des trois sœurs, elle était un peu tendue, mais enfin pas complètement. Mais enfin bon, mais c'était pas, je veux dire, elles ont vécu une vie pendant cette période qui était pas désagréable. Mais sans faire de mal. Ça que je veux dire aussi.
Finalement, suite à leur pauvreté de leur enfance, elles étaient finalement tout simplement attirées par tout ce qui était brillant, qui brille. Et finalement, elles avaient une théorie, la théorie du verre à moitié vide, et plutôt justement de voir le bon côté des choses et de ne pas voir le côté sombre.
Bah oui, enfin de toute façon, elles ne voyaient pas le côté sombre, parce que c'était quand même mieux que les favelas de Caracas, là. Elles étaient quand même bien, là. Elles étaient dans des beaux appartements, elles connaissaient des gens. Alors je traite un peu tous ces chefs d'entreprise qui côtoyaient les gens des commandatours, parce que c'était la seule manière pour eux de garder et de conserver leur affaire. Donc il y avait des gens qui ont réussi et qui ont fait fortune en commençant par la guerre, qui ont donné les voitures, on parle de Citroën, on parle de Berlier, on parle de tas de gens qui étaient les industriels français qui ont commencé à faire fortune pendant l'occupation.
Alors pendant l'occupation, on a certainement encore plus besoin de rêver que durant une autre période. On peut venir que la petite dernière des trois sœurs, elle est quand même un peu différente des deux autres, et elle, je dirais, c'est la plus romantique. Elle croit encore à l'amour, d'où le titre de votre roman, oui. Attends, moi j'arrive.
Oui, elle est assez mignonne, elle est assez géniale, la petite dernière. Et d'abord, elle est arrivée plus tôt, elle avait 14 ans quand elle est arrivée à Paris, donc elle est arrivée plus tôt, et elle a un peu plus le sens de la patrie, mais il y a un moment, elle allait à l'école, déjà, alors que les autres n'étaient pas scolarisés et parlaient pas très bien le français, et elle allait à l'école, et elle était avec un prof qui était dans la résistance, qui lui dit, viens avec nous, viens, faut nous aider. Et là, elle se dit, oui, je vais les aider, elle est prise par tout ça, et puis non, ses sœurs l'appellent, ils ont besoin d'elle parce qu'elle est tout à la fois, elle dirige leur vie, c'est la fille intelligente des trois, quoi. Les autres sont instinctives et elle gère un peu leur vie. Et attends-moi, j'arrive, et elle arrive et elle renonce à tous ses projets. Voilà.
Alors un roman d'amour finalement qui pose la question, comment se fait-il qu'un aristocrate charmant dont l'épouse est délicieuse, blonde, fine, eh bien va tomber amoureux et va s'éprendre de son contraire?
Alors ça, c'est le problème de tous les hommes. Hein. On est marié avec des femmes merveilleuses, ils sont mariés avec des femmes merveilleuses et tombent amoureuses de... C'est une fille qui danse sur la table et elles étaient très sexy. Mais c'est vrai qu'on peut pas avoir toutes les qualités, donc elles n'étaient pas très raffinées, dirons-nous. Et c'est vrai que Dolores, elle séduit tout le monde, même les hommes qui sont mariés, bien heureux, en ménage.
Et puis les mauvais tournants se prennent sans discernement.
Et les mauvais tournants, on les subit souvent, puis quelquefois on les choisit quand même. On prend ces deux mauvais tournants volontairement.
Alors l'otage de ces trois sœurs, eh bien, c'est ce fils de pasteur Jacques. Est-ce qu'il est un béné, un idiot ou un pur presque lunaire qui ne voit pas le mal et qui est prêt finalement lui aussi à tout pour fuir son éducation, sa famille, son époque?
Le fils du pasteur, il revient à la fin, il revient protestant. Mais tant qu'il est sous le charme de Dolores, il n'est plus fils de pasteur, il n'est plus rien. Il n'a qu'une seule idée, c'est de réussir sa sexualité avec sa femme. Et il a du mal. Hein. Donc, elle le pousse beaucoup, il fait du marché noir, et il marche très bien dans le marché noir. Et plus elle le pousse, plus il marche. Et en fait, lui, c'est la sexualité qu'il tient, sexualité qu'il a avec Dolores.
Alors au-delà finalement des différences de religion, le catholicisme, le protestantisme et même de culture, n'est-ce pas la problématique de l'homme pris entre son épouse et sa mère et la place de la belle-fille qui est mise un peu enceinte dans ce roman?
La place de la belle-fille, vous parlez de... Ah oui, vous parlez de Jacques.
Voilà.
Alors Jacques, il est avec une mère qui est absolument... Quand elles arrivent là, au Havre, dans cette communauté protestante, plus snobée que ces trois filles, on fait pas. C'est-à-dire qu'on veut pas les recevoir. On veut pas les voir, on veut pas les recevoir. Et lui, il retrouve sa mère, mais ça, elle l'a voulu, la Dolores, là. Il retrouve sa mère qui lui dit, moi, j'en veux pas de cette fille-là. Et... L'épouse légitime, épousée à Caracas, est absolument folle furieuse contre la belle-mère. Mais dans le fond, il faut mieux se marier de sa sorte à sa porte. Quand on épouse des gens qui sont complètement différents de vous, c'est pas facile. La vie n'est pas facile.
Donc justement, en roman, sur la place qu'on occupe, quelle que soit l'époque ou le monde dans lequel on vit, c'est jamais facile de faire sa place.
C'est difficile de faire sa place parce que toutes les vies subissent des tournants qu'on n'a pas voulu vraiment prendre, qu'on ne regrette pas toujours, qui sont, puis il y a les mauvais tournants, les bons tournants. Mais je pense quand même que le caractère, quand on est dans la misère, je pense que le caractère est plus fort que quand on est dans l'opulence. Et je pense que ces trois filles, elles avaient un caractère très très fort. Et on peut leur rendre hommage pour ce caractère, finalement. Mmh. C'était pas des gosses de riches. Elles se sont devenues pires que les autres.
Hein. Et quand on est romancière également, c'est une façon de reprendre, de vivre différentes vies, de vivre la vie que l'on désire.
Ah oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai, ça j'adore écrire des romans parce que je m'en vais avec mes personnages. Et je les vois, je les rencontre et je les aime ou je les aime pas, je les déteste. Enfin ça c'est vrai, j'aime bien vivre avec mes personnages. Je ne pourrais pas vivre sans écrire. Parce que la vie de tous les jours, elle est quand même pas, c'est pas tous les jours facile. On va, on vient, on fait beaucoup de petites choses. Mais quand on raconte des histoires, c'est génial. On peut, une romancière, c'est une menteuse autorisée, en fait. On raconte n'importe quoi, et puis c'est merveilleux. Enfin, on romance, et ça, c'est bien.
Et puis c'est le plaisir de la rencontre avec ses lecteurs. Anne-Marie Mitterrand, merci d'avoir pris place chez nous aujourd'hui donc pour présenter ce nouveau roman paru chez Albin Michel. Attends-moi, j'arrive. Un très très grand merci.
Merci.